le rendez-vous d'Amnesty International.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio FM+, et vous écoutez Amnesty International. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la marche des fiertés, et plus largement des droits, des orientations sexuelles et des identités de genre. Tout simplement parce qu'on est au mois de juin et que bientôt il y aura la marche des fiertés à Montpellier. Ce sera d'ailleurs le 17 juin à 15h30, ça va commencer au Pérou, il y aura une quinzaine de chars. Et bien sûr, il y aura des stands d'information toute la journée avec différentes associations qui pourront vous renseigner sur tout plein de sujets qui concernent l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Alors pour commencer, je vais d'abord essayer de définir un petit peu qu'est-ce qu'on entend par l'acronyme LGBTQIAPQ2S. Il y a beaucoup de lettres. On n'est pas obligé de tout comprendre et de tout connaître pour pouvoir respecter les personnes qui font partie de cette communauté, bien sûr. Mais on peut quand même essayer d'en avoir quelques petites définitions. Alors, la première lettre, L, c'est pour lesbienne, donc deux femmes qui ont des rapports sexuels. Gay, c'est la même chose, mais pour les hommes. Bi, c'est une personne qui va être attirée sexuellement soit par les hommes, soit par les femmes. Enfin, les deux, peu importe son sexe. Les personnes trans, ce sont des personnes qui ne s'en sentent pas bien dans leur genre d'origine, leur genre de naissance. Donc le genre, à différencier du sexe, évidemment, le genre c'est plus une catégorie sociale et le sexe ce sont les parties génitales. Les personnes trans ne se sentent pas en accord avec le genre qu'on aura attribué à la naissance, généralement qui est attribué selon les parties génitales de la personne qui vient de naître. Et les personnes trans, donc ça peut être soit une personne qui est née homme et qui se sent plutôt femme, ou le contraire, mais ça peut aussi être des personnes qui se disent non-binaires, par exemple, qui ne veulent pas s'associer à un genre, s'identifier à un genre en particulier, surtout si c'est des genres aussi restreints que juste la binarité homme-femme. Ensuite, on a le Q pour queer. Queer, c'est un terme un petit peu parapluie dans lequel on peut mettre à la fois des identités de genre ou des orientations sexuelles. Les personnes queer, c'est des personnes qui ont du mal à s'identifier à cette dichotomie homme-femme et qui en même temps ont une expression de genre qui ne reflète pas forcément justement ces archétypes du genre que sont homme et femme. Donc l'expression de genre, c'est la manière dont on va exprimer son genre, comme le nom l'indique. C'est tout simplement avoir une attitude comportementale et physique qui se rapproche plus d'un homme ou d'une femme. Et bien, les personnes queer ne vont pas vraiment adopter cette façon de faire, en tout cas pour ce qui est de l'expression du genre. Et même si c'est un petit peu difficile à définir et que beaucoup de personnes queer ne sont pas d'accord avec ma définition, parce qu'elle est un petit peu propre à chacun, je pense, et à chacune, moi, ce que je trouve le plus intéressant, c'est de dire d'où vient ce mot. Queer, à la base, c'est une insulte en anglais, donc ça veut dire un peu monstrueux. Et ce sont les personnes queer qui se sont réappropriées le nom, qui l'ont valorisé et qui maintenant le revendiquent. Ensuite, toujours dans cet acronyme, on a le I. Le I, c'est pour les personnes intersexes. Les personnes intersexes, ce sont tout simplement des personnes qui sont nées avec des attributs génitaux à la naissance, donc des attributs génitaux qui sont pas forcément catégorisables dans les catégories qu'on a l'habitude. Donc, pour les femmes, on va avoir l'habitude d'avoir des ovaires, un clitoris, un utérus, tout ce système-là. Et pour les hommes, on aura des testicules, un pénis et une prostate. Eh bien, les personnes intersexes, elles ont un petit mélange des deux et donc elles ne sont pas vraiment catégorisables. Il faut savoir qu'il y a quand même 1,7% de la population mondiale qui est intersexe. Donc, il s'agit pas d'un très très grand pourcentage, mais ça reste assez important puisque, à titre de comparaison, il y a autant de personnes intersexes du coup que de personnes qui naissent avec les cheveux roux. Donc si vous avez déjà croisé une personne avec les cheveux roux, eh ben vous avez forcément déjà croisé une personne qui est intersexe. Voilà, c'est à peu près le même pourcentage. Ensuite, on a le P dans cet acronyme. Donc le P, c'est pour pansexuel. Pansexuel, ce sont des personnes qui, un petit peu à la même manière que les bisexuels, vont être attirées sexuellement par n'importe quel genre. Les bisexuels sont attirés par les hommes et par les femmes, mais les pansexuels, ça va au-delà de ça, c'est-à-dire que n'importe quel genre, qu'il soit non-binaire, gender fluide, queer et tous les genres qui peuvent être exprimables, eh bien, les pansexuels vont y être attirés également. Ensuite, nous avons le A. Pour asexuel, les personnes asexuelles, ce sont des personnes qui, tout simplement, ont du mal avec les relations sexuelles, qui ça les intéresse pas, voilà, tout simplement. Il y a plein d'autres manières, en fait, de construire une relation de couple ou plus, et il existe plein de petites étiquettes qu'on peut mettre à ces couples, donc on a asexuel, on a aromantique, donc une personne qui va pas forcément être intéressée par la relation très sentimentale qu'il peut y avoir dans une relation de couple. On a aussi les sapiosexuels qui sont eux plus intéressés par le mental et le savoir d'une personne. Donc voilà, il y a vraiment plein de manières de vivre une relation amoureuse, tout simplement. Ensuite, on a un deuxième Q dans cet acronyme, c'est tout simplement questioning, ce sont des personnes qui sont en questionnement en français, et donc ce sont des personnes qui voilà cherchent un petit peu leur orientation sexuelle ou leur identité de genre ou les deux. Et enfin, on a deux S pour Two Spirits. Personnellement, je connais assez mal cette notion. Je sais que ça vient des Indiens d'Amérique, mais je pourrais pas beaucoup m'étaler sur le sujet parce que c'est une notion que j'ai du mal à comprendre. Mais voilà, elle existe et elle fait partie de cet acronyme également. Et ça sort un petit peu du cadre particulier de la binarité homme-femme. C'est pour ça qu'on l'a mis là-dedans. Encore une fois, c'est pas nécessaire de tout comprendre et de tout connaître forcément. Mais ça n'empêche pas de respecter. C'est pas parce qu'on comprend pas tout qu'on peut pas respecter les personnes qui ont une orientation sexuelle ou une identité de genre qui sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude de ce qui est l'hétérosexualité ou la binarité homme-femme. Voilà. Maintenant, je vais essayer de m'intéresser un petit peu plus en termes de droits, puisque à Amnesty International, les droits des orientations sexuelles et des identités de genre, c'est quelque chose qu'on défend partout en France et partout dans le monde. Je vais commencer par la France. La dernière grosse avancée qu'on a eue, nous, en France, c'était le mariage pour les personnes homosexuelles qui a été légalisé en 2013. Et avec ça, normalement, va aussi l'adoption. Bien sûr, les personnes qui ont le droit de se marier, eh ben, elles ont le droit d'adopter. Ça va avec. On oublie assez souvent. Malheureusement, dans la pratique, il y a encore beaucoup de couples homosexuels qui ne peuvent pas avoir accès à ce droit. Et donc, beaucoup vont à l'étranger ou on recourt à la PMA, souvent à l'étranger aussi d'ailleurs, puisqu'en France c'est assez difficile d'obtenir de réels résultats. Donc il y a beaucoup de personnes qui vont en Espagne, c'est pas très très loin, et le droit est un petit peu plus libre. En ce qui concerne les personnes trans, depuis 2017, on a une petite avancée quand même, puisque maintenant le changement d'état civil, ou en tout cas seulement le changement de prénom et de nom, est passé d'une procédure judiciaire, c'est-à-dire dans un tribunal, à une procédure simplement administrative. Donc maintenant, vous pouvez, si vous êtes trans, vous pouvez tout simplement aller à la mairie pour faire une demande de changement de prénom. En France, aujourd'hui, elle est très largement acceptée, même si de temps en temps, bizarrement, il y a des refus. On ne sait pas tout à fait pourquoi, c'est souvent des initiatives individuelles, et il faut savoir que c'est l'officier d'état civil hein, qui décide ça tout simplement. Pour créer un dossier selon le droit, vous avez simplement besoin de fournir des preuves que c'est un prénom, ce nouveau prénom que vous voulez à votre carte d'identité. Vous devez fournir des preuves que vous l'utilisez au quotidien. C'est marqué sur certains de vos papiers, par exemple votre facture ou à Pôle emploi, il y a des agents qui acceptent de le changer ou sur des contrats de travail si votre employeur est quelqu'un d'ouvert. Bref, il y a plusieurs manières de pouvoir prouver que c'est bien votre prénom que vous utilisez. Et aussi des attestations sur l'honneur de vos proches qui peuvent prouver votre bonne foi et montrer que c'est bien le prénom que vous utilisez. Alors, bien sûr, il y a des cas où ça marche pas et où les officiers d'état civil demandent des papiers émanant de médecins, mais c'est pas requis par le droit en principe, donc on n'a pas le droit normalement de vous demander ça puisque ça relève du privé. Par contre, pour la mention du sexe, on est toujours sur une procédure judiciaire, donc il faut passer devant un tribunal. Et il y a encore des tribunaux en France qui, malheureusement, demandent des photos avant-après, ce qui est le cas de Montpellier d'ailleurs, ce qui est tout à fait illégal. On n'a pas le droit de faire ça normalement. C'est absolument pas inscrit dans le droit. Vous n'avez pas besoin de prouver par des photos avant-après. Vous avez simplement besoin, encore une fois, d'attestation et de montrer que voilà, vous vivez comme ça au quotidien. En ce qui concerne par contre les intersexes, en France on est toujours sur un système qui est assez archaïque, c'est-à-dire que on n'a pas vraiment de reconnaissance de ce sexe-là. Il y a eu des avancées en Allemagne par exemple où maintenant on peut mettre comme mention du sexe sur la carte d'identité divers. Et d'ailleurs les offres d'emploi sont rédigées comme ça, hommes-femmes divers, demandés. Par contre, en France, on continue à faire ce qu'on appelle des opérations de normalisation, c'est-à-dire que à la naissance, une personne qui est intersexe et donc dont on ne reconnaît pas les parties génitales, eh bien, on va faire une opération. Parfois, on demande aux parents, parfois non. On essaye le plus souvent de reconstituer un sexe qui est acceptable selon les termes biologiques. Et souvent, on fait tout simplement ce qu'il y a de plus simple à réaliser. Malheureusement, ça a souvent des conséquences assez dramatiques sur les personnes en grandissant parce que du coup, le développement ne va pas forcément être très adéquate et il y a même des personnes qui ne sont pas prévenues de ce genre d'opération et c'est la raison pour laquelle souvent elles se retrouvent à avoir des problèmes de santé. Alors que avoir un sexe intersexe, du coup, c'est absolument pas dangereux pour la santé, c'est pas dangereux pour le développement de l'être humain et ça rend pas non plus stérile, comme disent certaines idées reçues. Malgré tout, en France, ça va, même s'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Par contre, à l'étranger, il y a encore plus de progrès à faire et c'est ce sur quoi on travaille à Amnesty International. Il faut savoir que, il y a quand même 69 pays sur 193 qui répriment l'homosexualité et où la transidentité est le reste, c'est même pas reconnu en fait. Donc pour la transidentité, il y a quand même énormément d'endroits où tout simplement on fait des thérapies de conversion. D'ailleurs, il y a quelques années, en 2020, il y avait Victor Madrigal Porlos, l'expert indépendant sur la protection contre la violence et la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre, qui avait recueilli des données sur les pratiques de thérapie de conversion. Et il avait recueilli des témoignages de victimes pour alimenter son dernier rapport au Conseil des droits de l'homme. Et il dit, je cite, ces interventions visent exclusivement les personnes LGBT dans le but spécifique d'interférer dans leur intégrité personnelle et leur autonomie parce que leur orientation sexuelle ou leur identité de genre ne relève pas de ce qui est perçu par certaines personnes comme une norme souhaitable. Elles sont intrinsèquement dégradantes et discriminatoires et sont ancrées dans la croyance que les personnes LGBT sont en quelque sorte inférieures et qu'elles doivent à tout prix modifier leur orientation sexuelle ou leur identité de genre pour remédier à cette prétendue infériorité. Alors il faut savoir que voilà, la thérapie de conversion, c'est tout simplement pour rendre la personne normale selon les normes en vigueur. Mais en ce qui concerne les trans, il y a des pays où ils sont encore plus mal lotis, par exemple, je crois au Japon et en Norvège. Et d'autres pays évidemment, pour pouvoir accéder à une transformation, eh bien on opère ce qu'on appelle des stérilisations forcées, tout simplement. Mais encore une fois, dans la plupart des pays où on réprime les droits des orientations sexuelles et des identités de genre, on oublie un petit peu les identités de genre justement pour se concentrer surtout sur l'homosexualité. En Europe, en Amérique du Nord et en Amérique latine, les lois qui interdisent l'homosexualité, elles ont été abolies. Il n'y a que quelques petits États insulaires des Caraïbes qui contredisent cette généralisation de l'acceptation de l'homosexualité par le droit. En Afrique et en Asie, la situation par contre, elle est très contrastée selon les pays. Il y a certains pays qui n'ont jamais pénalisé l'homosexualité, comme la Côte d'Ivoire par exemple, et il y en a d'autres tels que le Gabon ou l'Angola, qui viennent tout juste d'abolir son interdiction. Parmi les 32 pays d'Afrique qui interdisent l'homosexualité, on peut avoir des pays très peuplés, comme par exemple le Nigeria, l'Éthiopie, l'Égypte, la Tanzanie, l'Algérie ou le Maroc. En Asie, il y a 22 pays qui sont aussi dans ce cas-là, parmi lesquels on trouve l'Indonésie, le Bangladesh, le Pakistan, la Birmanie, l'Irak, Singapour, etc. Et il y a encore pire, puisqu'il y a des pays où, donc là, on parle juste d'emprisonnement, hein, bien sûr, pour ces pays-là, et il y a des pays où c'est la peine de mort. La peine de mort, c'est la sanction qui est prévue par la loi en cas de relations sexuelles entre adultes de même sexe dans 5 pays, l'Arabie Saoudite, le Brunei, l'Iran, la Mauritanie, le Nigeria et le Yémen. Et à cette sinistre liste, il faut ajouter 6 pays, l'Afghanistan, les Émirats arabes unis, le Qatar, le Pakistan et la Somalie, qui, selon le rapport 2020 de l'ILGA, pourraient recourir à la peine de mort sans que cela soit explicitement mentionné dans la loi. Alors pour toutes ces personnes aujourd'hui, c'est pour ça qu'on continue à organiser des marches des fiertés. C'est pour ça que les personnes qui peuvent y aller continuent d'y aller. C'est tout simplement pour marcher pour celles et ceux qui ne le peuvent pas, qui n'ont pas l'occasion dans leur pays de marcher pour obtenir des droits, qui n'ont pas l'occasion dans leur pays tout simplement d'avoir ces droits-là. Et à Amnesty International, on continue de se battre pour que ces droits soient reconnus dans le monde entier, tout simplement parce que il nous paraît qu'il s'agit d'un droit fondamental que de pouvoir faire ce que l'on veut de son propre corps, sans que n'importe qui puisse avoir quoi que ce soit à y redire. Alors encore une fois, je vous invite à venir à la Marche des Fiertés qui aura lieu à Montpellier le 17 juin. Toute la journée, vous aurez des stands d'information si vous voulez vous renseigner sur quoi que ce soit. D'ailleurs, il y aura AIDS aussi qui sera présent pour informer un petit peu sur les infections sexuellement transmissibles. Non pas que ce soit particulier à la population LGBT, évidemment, ça touche tout le monde, hein. C'est pas plus mal d'aller se renseigner. Et donc à 15h30, on aura le départ de la marche. Ça se fera donc à partir du Pérou. Il y aura une quinzaine de chars. Et vous pourrez bien vous amuser et vous renseigner sur énormément d'associations qui œuvrent à Montpellier pour la promotion de ces droits et aussi pour l'accompagnement des personnes concernées ou de leurs familles si elles ont besoin de soutien, tout simplement. Encore une fois, je vous encourage à y aller si ce n'est pas déjà prévu. Et je vous souhaite un bon week-end et à bientôt sur Radio FM+.